Réussir dans la vie ou réussir sa vie, c'est le thème d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre ces deux phrases et ensuite on verra comment et quelles sont les étapes à suivre pour réussir sa vie. Alors pour imaginer l'histoire de la réussite dans la vie, on va imaginer l'histoire de Sarah, de Serge et de Patrick qui sont au restaurant et qui vont passer commande. Alors le serveur arrive avec la carte des menus et il leur propose ensuite le menu du jour. Donc Serge passe le premier commande, il voit que le menu du jour est intéressant, il aura 4 services, entrée, plat, dessert, à un prix très intéressant et servi rapidement. Donc aucune attente. Patrick a envie de se faire plaisir, il regarde dans la carte de menu, il prend un plat de première apparence cher, il demande quelques suppléments et ne demande pas de dessert. Ensuite, Sarah passe commande et demande un plat très simple, un plat de pâtes. Elle donne quelques instructions supplémentaires sur 2-3 produits à rajouter et elle veut juste une boisson et elle donne les instructions au serveur. Donc le serveur part par servir, c'est passer la commande en cuisine et donc revient servir ses personnes. À la fin de la soirée, Serge, Patrick et Sarah, donc on passe une bonne soirée et donc ils font rapidement un débriefing sur ce qu'ils ont commandé. Et donc Patrick et Sarah disent à Serge, bah, tu dois vraiment être content, tu as eu 4 services, tu as pris le menu du jour, en plus c'est ce que le patron proposait. Et donc au final, Serge fait part un petit peu de sa déception, il dit non, j'étais pas vraiment content, c'était pas terrible, en plus j'ai pas vraiment pu faire de modifications, le serveur n'a pas voulu, vous avez entendu, donc j'ai dû vraiment accepter la sauce et puis le goût qui avait été décidé dans les plats. Donc c'était pas top, en tout cas je reprendrai pas ça la prochaine fois. Puis il dit à Patrick, toi tu as pris un plat qui t'a fait plaisir, mais tu as vraiment payé sûrement cher. Et là Patrick lui dit, bah non, justement j'avais fait un petit calcul rapide et j'ai vu que je payais pas vraiment beaucoup plus que toi en prenant un plat que je voulais vraiment. Et moi de toute façon le dessert ne m'intéressait pas, je préfère avoir un bon plat. Il dit donc, j'ai vraiment été gagnant sur la ligne et j'en ai vraiment tiré un vrai plaisir. Et ensuite, les deux garçons regardent Sarah avec un petit peu de tristesse dans leurs yeux et elle dit « Ah non, non, mais moi, j'étais super contente avec mon plat de pâtes. » Et le fait qu'ils rajoutent exactement ce que je leur ai demandé comme fromage et citron, c'était excellent. C'est le goût que je voulais. C'était waouh, quoi. Je reviendrai sans hésiter. Et donc, évidemment, on se retrouve dans une conclusion où tout le monde est un petit peu étonné. De premier abord, c'était Serge qui devait être le plus satisfait en ayant une super offre. On avait peur que Patrick soit un petit peu effrayé par le prix de son produit, de sa commande, ben finalement non. Et Sarah qui a pris la commande la plus simple, en fait elle avait pris le temps de voir ce qu'elle voulait, elle sait ce qu'elle voulait, elle connaît ses habitudes et ses choix et elle était super contente. Et donc c'est un petit peu comme ça que se passe la vie, le menu du jour c'est un petit peu le menu de la vie, ce qu'on nous propose quand on commence l'école. On nous propose ben, tout simplement d'aller à l'école, de réussir ses examens, d'avoir un diplôme à 18 ans et puis d'avoir un contrat déterminé, d'acheter une maison, de se marier et d'acheter une voiture et puis faire plein d'enfants. Et ça, c'est un petit peu le menu de la vie qu'on nous propose à tous. C'est le menu qui est proposé à 100% de la population. Et donc tout le monde va à l'école et comme on le sait tous, ben il se passe qu'il y a certains groupes qui commencent à se former. Donc les premiers vont commencer à vouloir quitter ce système, à vouloir se rendre compte que ce menu de la vie ne leur convient pas. Ils vont commencer à sortir de ce système vers 14 ans, 15 ans et on va les diriger vers des écoles professionnelles ou techniques. Les suivants iront jusqu'à 18 ans, termineront l'école classique, puis se rendront compte que ce menu de la vie n'est pas fait pour eux. Certains iront directement travailler, d'autres feront rapidement une petite formation professionnelle. Le troisième groupe se rendra compte qu'au final, c'est pas fait pour eux. Ce sera vers 25-26 ans, après avoir fait les études supérieures. Et là, enfin, ils se rendent compte qu'ils ont le courage ben, de dire que c'est pas pour eux. Et puis, ils vont se lancer dans une formation qui a rien à voir avec ce qu'ils viennent d'étudier. Et le dernier groupe qui finira par quitter le navire du menu de la vie, c'est les gens qui sortiront vers 35-40 ans ou plus tard, qui feront un burn-out. qui auront patienté longtemps dans ce système, dans le menu qu'on leur a proposé, et au final ils se rendent compte que ça ne les rend pas vraiment, vraiment joyeux. Et donc en fait, on a l'impression que certains ont fait le bon choix, qu'ils sont contents, et puis au final, au fur et à mesure de la vie, les gens sortent de cette proposition pour aller vers autre chose. Et là, je vais paraphraser un peu une phrase qu'a dit Tyler Durden dans un film, qui a dit « C'est vraiment bizarre parce que les gens font un travail qu'ils n'aiment pas pour acheter des choses qu'ils n'ont pas vraiment besoin et finalement pour impressionner des gens qu'ils n'apprécient pas ou qu'ils ne connaissent pas vraiment. » Et donc, cette sortie de groupe qui sera faite par ces personnes que j'ai précitées, à 14 ans, 18 ans, 25 ans, 35 ans, se rendent compte, à différentes étapes de leur vie, que ce qu'on leur propose, c'est pas fait pour eux. Voilà, faire un travail qu'ils vont pas aimer, puis acheter du matériel qui ne leur donnera pas nécessairement du plaisir, c'est pas pour eux. Et donc, chacun sortira de ce système en voulant trouver... chaussures à son pied ailleurs. Et donc, ce qui se passe avec la société, c'est qu'on dira de ces gens, pour les plus jeunes, qui n'ont pas le niveau, qui ne sont pas intellectuels, qui sont dyslexiques, qui sont dyscalculiques, et que donc, ils doivent sortir du système, car ils ne sont pas à la hauteur. Pour les plus jeunes, on dira, qu'ils sont pas, c'est pas normal de ne pas vouloir faire des études. Et puis pour les derniers qui feront un burn-out, on dira qu'il faudra consulter. C'est pas normal de ne pas être content quand on a un contrat à durée indéterminée. Donc, ces personnes-là vont commencer à ressentir un mal-être, deux mal-êtres, un parce qu'ils ne se sentent pas bien dans le système, dans le menu qu'on leur propose, et le deuxième mal-être parce que la société les regarde d'un regard assez paralysant et complexant. Et donc, ce qui va se passer chez ces jeunes et moins jeunes, certains vont devenir malades physiquement, psychiquement, certains vont se sentir bloqués, paralysés de toute action, énormément de souffrance et une grande, grande perte de confiance en soi, puisque on reliera la confiance en soi à la capacité de suivre le système, le menu qu'on nous propose. Ces gens-là vont être mis dans une place en marge de la société, un peu ce qu'on pourrait dire dans l'antichambre de la société, et on va les laisser traîner, rêvasser à autre chose que le menu qu'on leur a proposé. Quelle idée de ne pas vouloir aimer le menu tout frais organisé par la société. Et donc ces personnes vont commencer à se retrouver seules, à passer du temps de plus en plus seules pour s'occuper. Ils vont faire des choses qui les attirent naturellement. Ils vont chanter, danser, peindre, écrire, cuisiner. Certains vont planter des fleurs, des plantes. Certains vont passer du temps avec des animaux. Et ce qui va se passer, c'est que plus ils vont passer du temps seuls et plus ils vont se rendre compte qu'ils sont bien dans cette activité, dans ce passe-temps. Plus ils passeront du temps, plus ils se sentiront bien et moins ils sentiront la pression de la société et le regard des autres. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années pour certaines personnes, mais plus ils se sentiront bien, plus ils auront du plaisir et plus ce plaisir leur donnera cette légitimité à s'imposer en disant « voilà, moi j'aime ça, je veux devenir cuisinier, je veux être peintre, je veux être coiffeuse, malgré ce que vous pouvez penser ». Finalement, ma souffrance est beaucoup plus importante, beaucoup plus dérangeante que le dérangement que je peux vous causer. Et donc, ils arrivent à cette conclusion où mon bien-être, au final, est beaucoup plus important que votre opinion, que votre bien-être. Et donc, ils vont commencer à sortir, à faire leur coming out en imposant leur choix, en disant « voilà, je sais que c'est bizarre quand on est dans une famille d'intellectuels de ne pas aller à l'école, quand on est dans une famille d'avocats de vouloir être peintre, quand on est dans une famille de commerçants qu'on veut s'occuper de l'éducation des enfants. » Donc, cette autorisation qu'ils vont s'accorder va leur permettre d'augmenter leur confiance en eux. Et donc, c'est là où ils vont se rendre compte qu'au final, ils vont faire une grande découverte, que le plus important pour eux, c'est se sentir bien. Et ça va être confirmé par une étude qui a été faite aux États-Unis en 1938 On a interrogé des personnes et on a tiré une conclusion en trois points sur qu'est-ce qui fait qu'une personne estime avoir réussi sa vie. Et donc en 1938, on a résumé, on a retiré trois points qui revenaient chez ces personnes. Elles ont toutes répondu que le fait d'avoir la santé physique, le fait d'avoir des bonnes relations avec leur entourage et en troisièmement, le fait d'avoir un épanouissement personnel. Et c'est ce troisième point qui va nous permettre en fait de créer ce nouveau groupe des gens qui ne veulent plus réussir dans la vie, mais qui vont chercher à réussir leur vie. À partir du moment où vous sentez votre épanouissement personnel, c'est très simple parce que c'est subjectif, personne ne peut le savoir à votre place, c'est quand vous vous sentez bien, que vous souriez tout seul et que vous avez envie de faire cette chose-là de façon illimitée. Vous êtes emporté par la chose, par l'activité. Vous pourriez cuisiner pendant des heures, vous pourriez chanter pendant des heures, vous pourriez peindre pendant des heures. Et là, vous vous sentez épanoui. Il n'y a plus rien qui compte au monde. Et c'est là où tout le côté matériel vient ensuite. Donc, ce groupe-là, et grâce à cette étude en 1938, on sait maintenant que réussir sa vie, c'est en fait avoir la santé, les relations avec son entourage, mais cet épanouissement personnel. Et donc, ça prend du temps pour beaucoup de personnes d'avoir le courage de mettre ça en priorité. Donc, réussir sa vie, qu'est-ce que c'est ? Ben, en fait, c'est se créer un style de vie. C'est finalement, quelle est la journée idéale pour toi ? À quelle heure tu voudrais te lever ? Qu'est-ce que tu voudrais faire de ta matinée, de ta journée ? Où est-ce que tu voudrais vivre ? Alors, finalement, on pourrait tous se poser la question, même si on est salarié, même si on travaille pour un patron, on peut ne pas se sentir épanoui complètement et donc on peut se dire qu'est-ce que je pourrais compléter à ma vie, à mon quotidien, ben pour me sentir épanoui. Et donc, c'est ici où on en arrive aux cinq étapes pour pouvoir organiser, créer son style de vie et donc réussir sa vie. Alors la première étape, nous on l'a appelé le SWEM, qui est beaucoup plus connu dans le développement personnel par le why, par le pourquoi. C'est... nous, on l'a appelé le SWEM parce que c'est un message que j'ai trouvé un jour dans un biscuit chinois qui disait « Start with an end in mind ». Donc, avant de vouloir commencer sa vie, il faut savoir comment vous voulez la finir. Donc, finalement, quelle serait la journée idéale pour vous ? Pourquoi vous allez vous battre toute votre vie ? C'est quoi le final ? Où est-ce que vous voulez finir votre vie ? C'est un peu ce que les gens du système A, du menu de la vie, prévoient pour leur pension. Et donc ici, c'est quoi votre idéal ? On va y revenir et on va voir comment on peut le constituer, comment on peut répondre à ce SWEM. Alors, la deuxième chose qu'on va établir, c'est quelles sont vos valeurs. Donc, je vais vous en citer ici quelques-unes. Et l'idée, c'est de faire votre top 3. Alors, il y a l'amour et l'amitié, il y a l'apprentissage, donc votre vie intellectuelle, la passion, la nature, les animaux, la spiritualité et la foi, l'honnêteté, la paix, tranquillité, le courage, la justice et la responsabilité, ou enfin la joie et le détachement. Donc évidemment ces valeurs correspondent à tout le monde, mais on a tous un top 3. Donc quelle serait la valeur qui serait non négociable pour vous ? Qui est la base de votre vie, ensuite la deuxième et la troisième. Donc troisième point, quelles sont vos références ? Donc quelles sont vos pensées ? Quel est votre mode de pensée par rapport à l'argent ? Par rapport aux conditions de vie ? Par rapport à la famille ? Par rapport à votre localisation, là où vous voulez vivre ? Par rapport au patron, qui est le patron de votre vie ? Quel statut vous voudriez avoir dans votre vie ? Indépendant, salarié, associé, partenaire. Quelle est la place de la formation dans votre vie ? Alors, ces références, en fait, comment vous allez pouvoir y répondre ? En général, ça correspond à l'environnement dans lequel vous avez grandi. Et c'est votre façon de penser. C'est quelle est l'importance de ces choses dans votre vie ? Quelle est l'importance de l'argent ? Et même si ce n'est pas juste pour le stocker, mais vous voulez en faire énormément de choses, bah vous devez savoir pourquoi l'argent est important pour vous et qu'est-ce que vous allez en faire. Donc, votre cadre référentiel, c'est ça. Alors, le troisième point, c'est le plan de carrière. Le troisième point, ce sont l'analyse SWOT. Le plan de carrière, il se retrouve avec les références. L'analyse SWOT, c'est une analyse que vous pouvez faire sur vous-même. Le SWOT, c'est ce qu'on utilise, nous, pour les entreprises. Et en fait, on peut l'appliquer à l'être humain. Donc, le SWOT, c'est quoi? C'est SWOT qui vient de l'anglais, avec le S pour les forces, le W pour les faiblesses, le O pour les opportunités et le T pour les menaces. Alors, en résumé, qu'est-ce que ça pourrait être? Les forces et les faiblesses, c'est qu'est-ce qui m'est personnel. Donc, mes forces, c'est j'aime les mathématiques ou j'aime la comptabilité. Mes faiblesses, je déteste apprendre les langues. Voilà. Il faut juste les noter et ne porter aucun jugement. Les opportunités et les menaces, ce sont les avantages en fait et les inconvénients de ma vie, mais extérieure, donc qui n'est pas lié à moi. Alors par exemple, les opportunités, j'ai un frère qui habite au Canada, donc je le note. Ça pourrait être une opportunité pour moi un jour. Les menaces, par exemple, je n'ai pas de voiture ou bien je n'ai pas de contrat indéterminé pour l'instant. Donc c'est une menace par rapport à mon programme pour les années à venir. Donc la menace est toujours quelque chose de subjectif par rapport à ce que vous voulez. Ensuite, le cinquième point, c'est les priorités et ça, c'est on peut le faire via la grille de Eisenhower. Vous pouvez diviser votre page en quatre cases, en fait, avec ce qui est important et urgent. Dans la première case, c'est ce qu'il faut faire en premier. Ensuite, la deuxième case que vous pouvez mettre en bas à gauche, c'est ce qui est important mais pas urgent. Et donc là, vous pouvez le planifier. Le planifier et le faire vous-même. Troisième case, c'est ce qui est urgent mais pas important. Et là, vous pourriez le déléguer. Il y a toujours quelqu'un qui pourrait vous aider à faire ce qu'il y a à faire. Et le quatrième cadre serait pas urgent, pas important. Et ça, en général, ce sont des choses qu'on dépose sur le papier pour s'alléger, mais qu'on finit par savoir qu'on ne fera pas, parce que c'est ni important, ni urgent. Donc, c'est vraiment personnel à chacun, comment remplir ces cases, parce que faire un album photo, ça peut être important pour quelqu'un, pas pour une autre personne, réparer la voiture, etc. Donc, une fois qu'on a répondu à ces quatre points, les valeurs, les références, l'analyse SWOT et la grille de Eisenhower, en fait, on peut revenir à la fin, à son SWOT et le compléter. Une fois qu'on a appris à se connaître en répondant à ces quatre points, on peut compléter le SWOT. Comment je me vois finir ma vie, ou en tout cas, comment je vois ma vie idéale. J'aimerais bien vivre de telle manière à partir de demain. Ce serait pour moi les vacances à vie. Et c'est ça le SWOT. Alors, on va terminer avec le mot réussir. Finalement, réussir, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on pourrait le décomposer? Nous, on vous propose une petite définition qui pourrait vous aider et qui résume un petit peu ces cinq étapes qu'on vient de citer. Alors, réussir, c'est de réfléchir. D'abord, il faut prendre le temps de réfléchir. Ensuite, le U de unir ses idées. Donc, réunir tout et mettre sur papier. Troisième étape, sélectionner. Donc, on a dit de trier les priorités. Le quatrième, y s'imposer. Donc, imposer certaines choses qu'il va falloir faire sans réfléchir, pouvoir démarrer un processus. Et enfin, réagir, réadapter. Ce qui me plaît, je continue à le faire. Ce qui me dérange, j'essaye de le modifier et j'adapte. Et donc, c'est un process qui sera infini. Donc, réussir sa vie, c'est vraiment créer votre style de vie en prenant le temps de réfléchir à vos valeurs, vos références, votre analyse SWOT, votre grille de Eisenhower avec vos priorités. Et ensuite, vous aurez une idée beaucoup plus claire de votre SWOT, votre end in mind. Vous avez cette image idéale de ce que serait votre vie idéale à partir de demain. Alors, on vous souhaite à tous de prendre le temps de réussir votre vie. À bientôt.